Chapitre 16. La réception magnifique donnée par le prince Mirza en l'honneur de l'archiduc François Charles fut l'occasion d'une présentation solennelle de la nouvelle fiancée à toute la noblesse accourue à l'invitation du jeune magnat. Myrtot, d'une beauté saisissante dans sa vaporeuse et très simple toilette blanche, obtint un triomphal succès capable de griser tout autre que cette petite tête sensée et sérieuse. L'archiduc et tous les invités, émerveillés de cette grâce ravissante unie à la plus charmante modestie, félicitèrent chaleureusement le prince Arpad, dont le regard exprimait un bonheur contenu mais profond. Après cette fête, pour laquelle le prince avait déployé toutes les splendeurs d'autrefois, Voragzi retomba dans le calme et l'intimité. Les fiancés, accompagnés de la comtesse Gisèle, de Terka et de Mizi, firent seulement un court séjour à Paris pour choisir le trousseau et la corbeille de la future princesse et aussi pour assister au baptême de la petite fille d'Albertine. Madame Millon avait écrit à Myrtot pour lui demander d'être la marraine en laissant entendre qu'elle ne savait trop qui choisir comme parrain, leur parenté étant fort réduite. Le prince Arpad avait dit aussitôt « Ce sera moi, s'ils le veulent bien. » Personne n'avait dit non, pas même Pierre Roland, qui eût dû tressaillir jusqu'au fond de son âme de fougueux démocrate, à cette pensée de donner un prince pour parrain à sa fille. Il se montra même le plus enthousiaste, le plus orgueilleusement joyeux. C'est que le prince Mirza était, lui, le plus magnifique des parrains. Outre un superbe cadeau à la mère, il constituait à l'enfant un joli petit capital dont les revenus devaient servir à son éducation. Et, ma foi, n'est-ce pas, démocrate ou non, l'intérêt avant tout. Quant à la marraine, elle reçut à cette occasion la plus merveilleuse petite couronne qui ait jamais paré un front de princesse. « Pour votre présentation à la cour, Myrtot, » dit son fiancé en la lui offrant. Il lui donnait relativement peu de cadeaux en dehors de ceux nécessités par son rang, car il connaissait les goûts de sa Myrtot, qui la ravissait plus que ne l'eussent fait toutes les merveilles du monde. C'est ainsi qu'ayant appris que les meubles de Madame Eliani se trouvaient toujours en dépôt chez une voisine des Millon, il les avait fait transporter secrètement dans une chambre de son hôtel et y avait ensuite conduit Myrtot, émue et touchée, au point que les larmes avaient jailli de ses yeux en présence des chers souvenirs, et aussi à cette constatation nouvelle de la délicate affection dont elle était l'objet. Les fiancés se retrouvèrent avec joie à Voragzi, qui leur était cher à tous deux. Quelques jours après son arrivée, le prince Mirza demanda un entretien à sa mère et lui apprit ce qu'il comptait faire à l'égard de ses sœurs et de son frère. À Reynat, il donnerait à sa majorité le domaine des comtes Zolanii, racheté par lui après la mort du second mari de la comtesse. Terka et Mizi se voyaient constituer des dots superbes. « Quant à Irène, ajouta le prince, je me réserve de lui apprendre moi-même ce que je compte faire à son égard. Vous voudrez bien, ma mère, lui dire de venir me parler demain matin. » La jeune fille passa la fin de la journée et toute la nuit dans de véritables transes. Ce n'était évidemment pas un traitement de faveur que lui réservait son frère. Depuis ses fiançailles, il avait adopté à son égard une attitude d'indifférence absolue. Jamais il ne lui adressait la parole et, tandis qu'il avait comblé de cadeaux Terka et Mizi pendant leur séjour à Paris, il n'avait rien rapporté à Irène, demeuré pendant ce temps au château de Cesli, chez sa marraine, la comtesse Sarolta Giza, alors que Reynat lui-même avait vu arriver à son adresse une gentille petite voiture et un poney qui avait réalisé son rêve le plus cher. Il semblait vouloir l'ignorer absolument, et l'amertume s'amassait dans l'âme d'Irène, non contre lui, mais contre Myrtot, amertume d'autant plus intense qu'elle n'osait plus la faire sentir à sa cousine. Ce fut donc l'âme remplie d'une sourde angoisse qu'elle entra le lendemain dans le cabinet de travail de son frère. Le prince, occupé à écrire, lui désigna un siège en disant froidement « Asseyez-vous, Irène, je suis à vous dans 5 minutes. » 5 minutes, c'était 5 siècles pour l'anxiété grandissante dans le cœur d'Irène à la vue de la physionomie glacée de son frère. Sur son bureau, il y avait une grande photographie représentant Myrtot vêtue de blanc et couverte de fleurs, comme le jour où le prince Mirza l'avait aperçu près du petit bois. Et cette vue fit monter au cerveau d'Irène une bouffée de colère jalouse. Le prince posa enfin sa plume et se renversa légèrement dans son fauteuil pour fixer sur sa sœur ce regard qui gardait pour elle la dureté d'autrefois. « Ma mère vous a appris, n'est-ce pas, ce que je comptais faire pour faciliter l'avenir de Terka, de Mizi et de Renat ?» Elle répondit affirmativement, d'une voix étouffée par l'émotion qui la serrait à la gorge. « Il y a quelques mois, j'avais pour vous des intentions semblables, malgré l'impression peu favorable produite sur moi par votre malveillance à l'égard de celle à qui nous devons tant et qui s'est montrée, malgré tout, si patiente et si bonne à votre endroit. Mais il s'est passé depuis un fait me montrant qu'il ne s'agissait pas seulement d'une jalousie, d'une antipathie passagère. » Lorsqu'une femme froidement, délibérément, inflige une blessure profonde à une autre femme qui ne lui a jamais fait que du bien, lorsqu'elle ne craint pas, dans sa rage jalouse, de lui faire croire ce qu'elle sait n'avoir jamais existé, pour avoir l'atroce plaisir de la faire souffrir, je n'ai qu'un mot pour qualifier un tel acte, je l'appelle une lâcheté perfide. Et j'avais jugé que celle qui s'en était rendue coupable n'était plus digne d'être traitée comme une sœur. Pâle et tremblante, Irène baissait les yeux. Il lui semblait soudain que tout s'écroulait autour d'elle. Cependant, sur l'instante demande de Myrto, dont la charité ne connaît pas de limite, j'ai consenti à revenir sur ma décision. Vous aurez donc la même dot que Terka et Mizi. Mais j'ai tenu à vous faire savoir que vous la deviez à Myrto seule. » Les lèvres serrées d'Irène s'entr'ouvrirent pour laisser échapper ces mots. « De cette manière, je n'en veux pas. »« Oh, à votre gré, » dit-il du même ton net et glacé. « Mais ce n'est pas ainsi que se trouvera facilité le mariage riche et brillant rêvé par votre cervelle futile. Vous réfléchirez et me donnerez votre réponse demain. » Elle se leva brusquement, la colère lui montant au cerveau, avec une sorte d'affolement qui l'emportait hors d'elle-même. « Pas demain, aujourd'hui. Je ne veux rien d'elle, je la hais, cette hypocrite, cette intrigante !» Elle le vit tout à coup debout, son poignet se trouvant enserré dans une main dure, des yeux étincelants d'irritation se posèrent sur elle, lui faisant baisser les siens. « Vous osez l'insulter, misérable envieuse, je vous forcerai à lui demander pardon à genoux. »«
Vous me faites mal !» bégaya Irène.
Il lâcha son poignet et, subitement redevenu maître de lui-même, dit avec un calme glacial « Je pense qu'en effet, vous n'avez aucun besoin de mon aide pour votre avenir. Arrangez-vous à votre guise, je me désintéresse totalement d'une créature ingrate et sans cœur. » Elle sortit du cabinet de travail, frissonnante et presque livide. À ses oreilles bourdonnantes retentissaient les derniers mots de son frère. Elle gagna le salon et se laissa tomber sur un fauteuil car ses jambes tremblantes refusaient de la porter. Des soubresauts nerveux la secouaient des pieds à la tête. Le front contre le dossier du fauteuil, elle pleurait convulsivement en se tordant les mains. Une porte s'ouvrit tout à coup. C'était Myrto, les bras remplis de fleurs dont elle venait orner les jardinières du salon. « Irène ? » dit-elle avec une surprise anxieuse. La jeune fille se redressa brusquement, comme si quelque venimeux insecte l'avait touchée, montrant son visage congestionné, couvert de larmes, et ses yeux brillants de fureur.
« Vous, encore vous, ce n'est pas assez de m'humilier, de me faire jeter une aumône par lui. Il faut encore que vous veniez jouir de ce que vous m'avez si bien préparé. »«
Irène, mais Irène !» murmura Myrto toute pâle.
« Je vous hais !» continua Irène avec exaltation. « Vous n'êtes qu'une habile comédienne, vous avez bien joué votre rôle. Maintenant, vous faites de lui ce que vous voulez et vous en profitez pour l'exciter contre moi, que vous détestez. »«
Oh, Irène, moi qui ai tout fait au contraire pour... »
Un rire convulsif secoua la jeune fille.
« Ah, vous croyez que je m'y laisse prendre ? Il y a tant de manières de s'arranger pour perdre les gens dans l'esprit de quelqu'un tout en ayant l'air de parler en leur faveur. Et lui, malgré son intelligence, tombe facilement dans le panneau. Tenez, regardez ce que je dois
à votre bienfaisante intervention près de mon frère. »
Elle étendait son poignet où se voyait la marque des doigts du prince Mirza.
Il m'a fait cela parce que je vous traitais comme vous le méritez. J'ai pensé un moment qu'il allait me tuer. Et vous croyez que je ne vous hais pas ? »
Elle se tordit violemment les mains et se renversa sur un fauteuil, en proie à une terrible crise nerveuse. Myrto, effrayée, laissa tomber ses fleurs et se précipita vers la sonnette. Puis elle revint vers sa cousine et essaya de la calmer, mais vainement. La comtesse Gisèle et Terka arrivèrent bientôt, puis le docteur Edaï. Irène s'apaisait peu à peu, mais tout son corps demeurait agité d'un tremblement et elle était en proie à une fièvre violente. Sa mère, sa sœur et Myrto se remplacèrent près d'elle pendant cette journée et la nuit suivante. Elle avait le délire et avec des gestes d'effroi, elle murmurait
« Il va me tuer, j'ai peur !»
Myrto posait alors sa main sur le front de sa cousine et la malade se calmait un peu. Vers le matin, elle s'endormit sous la douce caresse de cette petite main infatigable et le docteur Edaï déclara d'un ton de vive satisfaction « Allons, mon inquiétude disparaît, nous n'aurons pas les complications cérébrales que je craignais. La comtesse a pu éprouver une violente commotion morale et comme elle est fort nerveuse, il en est résulté un excessif ébranlement qui se calmera peu à peu. » La fièvre tombait en effet, l'agitation s'apaisait, reparaissant seulement à des intervalles de plus en plus éloignés. Mais la malade demeurait silencieuse et sombre, un bruit de pas dans les corridors la faisait tressaillir, et entendant prononcer par Terka le nom d'Arpad, elle fut reprise d'une recrudescence de fièvre.
« Il y a eu une terrible scène entre lui et elle, il me l'a dit hier, » expliqua Myrto à sa cousine, surprise de l'effet produit.
Au bout de quelques jours, le mieux était définitif. Irène reprenait quelque peu ses forces, abattue par la fièvre et la fatigue nerveuse. Mais elle demeurait songeuse et triste, malgré tous les efforts de sa mère, de Terka et de Myrto. Elle semblait fort peu pressée de quitter son appartement pour reprendre sa vie accoutumée. Elle s'était laissée soigner par sa cousine, d'abord inconsciemment dans son délire. Elle n'avait pas protesté davantage lorsque, la raison lui revenant, elle avait reconnu Myrto dans cette vigilante garde-malade dont la petite main douce avait apaisé ses plus pénibles accès. Depuis quelques jours, elle semblait réfléchir beaucoup et sa parole se faisait moins brève, son regard s'adoucissait pour celle qui ne cessait de l'entourer d'un dévouement discret. Une après-midi très ensoleillée, Myrto entra, son chapeau sur la tête, et dit d'un ton résolu
« Allons, Irène, vous allez faire un tout petit tour avec moi. Vous vous anémiez ici. Il faut absolument recommencer à sortir. »
Irène secoua la tête.
« Pas encore, Myrto. Je ne me sens pas assez forte. »
Myrto se pencha vers elle et lui prit la main en la regardant avec un sourire.
« Dites plutôt que vous avez peur encore. Une peur irraisonnée, enfantine. »
Irène rougit un peu.
« Oui, c'est vrai, » murmura-t-elle.
« Quelle folie, Irène ! Il m'a chargé de vous dire tous ses regrets et son désir qu'il ne soit plus question entre vous et lui de ce qui s'est passé. Oh, je l'ai bien grondé, je vous assure, pour vous avoir si peu ménagé. »
« Je le méritais, » dit franchement Irène. « Vous a-t-il appris comment je vous avais traité ?»«
Je n'ai rien su, je ne veux pas le savoir, Irène. »
« Si, je veux vous le dire, moi, je vous ai appelé intrigante, hypocrite, et j'ai été si mauvaise pour vous en vous racontant ce mensonge à propos de Madame de Saulier. Oh, je comprends qu'il m'est en horreur. »
« Taisez-vous, Irène, ne vous agitez pas encore en ramenant sur l'eau toutes les vieilles histoires. Vous savez bien que tout est oublié. Allons, venez avec moi, je veux vous montrer le nouvel arrangement de la grande serre. » Irène, après une courte hésitation, mit son chapeau et suivit sa cousine au dehors. Appuyée sur son bras, elle marcha lentement vers la serre principale, but indiqué par Myrto. Mais elle s'arrêta tout à coup et pâlit un peu. À quelques pas de la serre, le prince Mirza conférait avec le jardinier-chef.
En apercevant sa sœur et sa fiancée, il s'avança vivement, les mains tendues vers Irène.
« Ma pauvre Irène, vous voilà enfin. J'avais hâte de voir par moi-même comment vous vous trouviez. »
Saisie par cette cordialité inaccoutumée, Irène balbutia, rougit, puis fondit en larmes. Mirto l'entraîna vers un banc et la fit asseoir entre le prince et elle. Irène sanglotait sur l'épaule de sa cousine, mais elle se calma bientôt aux affectueuses paroles de son frère et de Mirto, et elle sourit enfin à travers ses larmes lorsque le prince Arpa dit gaiement
« Je crois, Irène, que nous serons tous maintenant très unis, n'est-ce pas ?»«
Oui, grâce à Mirto, » répliqua vivement Irène avec un regard reconnaissant vers sa cousine.
« Vous l'aimez donc maintenant, notre Mirto ? » demanda-t-il avec émotion.
Irène sourit et appuya de nouveau sa tête contre l'épaule de sa cousine.
« Que voulez-vous ? Je fais comme les autres, » dit-elle avec une gaieté attendrie.
« Irène, ceci est le mot qui efface les derniers nuages entre nous. » Et le prince Arpan, se penchant vers sa sœur, posa ses lèvres sur son front. C'était son premier baiser fraternel depuis bien des années, et Irène, très émue, y vit le gage d'un pardon entier.
Le mariage du prince Mirza et de Mirto se célébra vers le milieu de septembre par une journée si belle, si ensoleillée, qu'il semblait que le ciel lui-même eût voulu fêter les jeunes époux et contribuer à la splendeur de cette cérémonie. Dans la chapelle trop petite et ornée de fleurs avec une merveilleuse profusion, se pressaient les nobles invités, parmi lesquels tous les Gisas, sauf le comte Mathias, n'ont encore consolé. Le soleil, traversant les vitraux, inondait de lumière les atours somptueux, mettait un nimbe sur la tête de la jeune mariée, admirablement belle, dans sa toilette de moire tissée d'argent, et enveloppait de lumière le prince Mirza, qui portait avec une inimitable élégance son superbe costume de magnat. À l'autel, le père Joaldi offrait le saint sacrifice. L'archevêque de G, grand-oncle du prince Arpad et un peu parent de Mirto, avait donné la bénédiction nuptiale après avoir prononcé une délicate allocution sur le devoir conjugal, sur le bonheur, supérieur à toutes les épreuves, qui attend les époux unis dans la même foi, dans la céleste espérance. Et tandis que Mirto songeait avec une radieuse allégresse,
« C'est ainsi que nous serons, mon Dieu, puisque vous avez bien voulu le ramener à vous. »
Lui, reportant son regard, du cher visage transfiguré par la ferveur à la croix dressée au-dessus du tabernacle, disait du fond du cœur
« Merci, mon Dieu, de me donner cet ange pour soutenir et éclairer ma vie. »
Après la cérémonie, les nouveaux époux se rendirent dans la salle des magnats où défilèrent devant eux tous les assistants, parents, amis, serviteurs, tenanciers. Tous les pauvres gens secourus par Mirto étaient là aussi, dévorant des yeux leur jeune princesse rayonnante de bonheur. Un à un, ils s'avançaient, baisant sa main et celle du prince Arpad, murmurant des vœux de longue félicité. Et pour eux, Mirto avait son plus joli sourire, son regard le plus doux. Une femme, jeune encore, aux cheveux bruns grisonnants, s'avança la dernière, tremblante, les yeux baissés. À sa vue, le prince eut un violent tressaillement, ses traits se crispèrent. La femme était devant lui, courbée, presque agenouillée. Par un suprême effort sur lui-même, il étendit sa main, que Marsa effleura de ses lèvres.
« Merci, Seigneur !» dit-elle d'une voix étouffée.
Et en se redressant, elle enveloppa d'un regard d'ardente reconnaissance la jeune princesse qui lui souriait. Puis ce fut le repas dans la salle des banquets, repas d'une féerique somptuosité qui réunissait, outre les nobles invités, tout le haut personnel de Voragzi. Le dessert terminé, l'archevêque se leva et prit des mains du père Joaldi une coupe de lapis-lazuli, encerclée d'or et garnie de gemmes magnifiques. Depuis un temps immémorial, elle avait servi au mariage de tous les princes Mirza. Le prélat l'emplit de vin de Tokaï, il la bénit et, s'avançant vers les nouveaux époux, la présenta au prince Arpad. D'après le rite traditionnel à Voragzi, c'était l'époux qui devait le premier y tremper ses lèvres, affirmant ainsi sa suprématie conjugale, et la tendait ensuite à sa femme.
Aussi y eut-il dans l'assemblée un vif mouvement de surprise lorsqu'on vit le prince, en un geste de respect chevaleresque, se pencher vers Myrtot et approcher lui-même de ses lèvres la coupe éblouissante. Après quoi, il but à son tour, tandis que les assistants, se levant, acclamaient les nouveaux mariés. Pendant qu'on se répandait dans les salons, le prince et Myrtot allèrent faire le tour des longues tables dressées dans les jardins pour les tenanciers et les pauvres du pays. D'enthousiastes Edgènes les accueillirent, des malheureux sauvés de la misère ou du désespoir, par celle qui était appelée couramment notre ange, baiser la robe de Myrtot. Le prince, visiblement ravi, emmena cependant bientôt la jeune femme, car celle-ci, malgré son énergie, ne pouvait dissimuler complètement la fatigue qu'il a gagnée après la longue cérémonie du matin et le repas interminable, comme le voulait la tradition. « Maintenant, vous allez pouvoir vous reposer, ma Myrtot. Ma mère et mes sœurs s'occuperont de nos hôtes. Voulez-vous que nous allions dans le parc? L'air dissipera peut-être votre mal de tête. »
« Oh, volontiers! Mais n'aviez-vous pas quelque chose à demander à Monseigneur Géza avant son départ ?»«
C'est vrai. Voyez comme j'ai besoin d'avoir près de moi ma chère petite femme pour me rappeler tout. Allez en avant, Myrtot chérie, je vous rejoindrai dans un instant. » Il l'attira à lui, la baisa au front et s'éloigna d'un pas rapide. Une bizarre impression s'empara soudain de Myrtot. Il lui vint l'envie folle de le rappeler, de lui crier
« Non, non, restez près de moi !»
Allons, la fatigue l'avait rendue aujourd'hui bien nerveuse. Elle raconterait tout à l'heure à Arpad cette singulière idée et ils riraient tous deux de cet effroi enfantin. Elle se dirigea lentement vers le parc. Cette fin d'après-midi était d'une douceur pénétrante, empreinte de ce charme particulier des premières journées automnales. Les feuillages prenaient déjà quelques teintes chaudes, le soleil déclinant répandait une tiédeur exquise dans l'atmosphère. Comme la jeune femme passait près d'un bosquet, elle vit remuer le feuillage et elle ne put retenir un mouvement d'effroi lorsqu'une femme, couverte d'un manteau noir à capuchon, se dressa tout à coup devant elle.
« Que faites-vous là ? » dit-elle en se ressaisissant aussitôt.
L'inconnu, au lieu de répondre, interrogea en allemand, mais avec un accent étranger.
« Avez-vous vu un portrait de la princesse Alexandra ?»«
Oui, mais que signifie ?» D'un geste brusque, la femme fit retomber son capuchon et une exclamation s'étouffa dans la gorge de Myrtot. Elle avait devant elle Alexandra. Oui, c'était ses traits, son regard. Il sembla à Myrtot que son cœur s'arrêtait de battre. L'étrangère enveloppait d'un coup d'œil haineux la jeune femme, plus blanche que sa robe d'épousée.
« Vous ne vous attendiez pas à cette résurrection, princesse » dit-elle enfin d'un ton mordant.
« Alors vous n'êtes pas morte ?»
Les mots s'échappaient machinalement des lèvres pâles de Myrtot. Elle n'avait plus conscience de ce qu'elle disait, un voile couvrait son regard, un écroulement se faisait en elle.
« Mais il paraît, puisque me voici devant vous. C'est une véritable surprise, n'est-il pas vrai? On croyait cette pauvre maîtresse Burnett morte et enterrée. Malheureusement, elle a survécu et, apprenant le second mariage du prince Milza, elle a eu la curiosité de connaître celle qui l'a remplacée, cette jeune grecque que l'on disait si belle. Oh, la renommée n'a pas menti. Belle, vous l'êtes royalement, dit-elle avec un regard envieux. Et on dit que tout le monde vous aime, et lui surtout. Vous avez tous les bonheurs, la vie s'annonce radieuse pour vous. Et cependant, un mot de moi peut tout vous enlever. »
Son regard, un peu voilé sous les paupières retombantes, cherchait à scruter la physionomie rigide de Myrtot.
« Quand on saura que je vis, tout changera pour vous. L'Église déclarera nul votre mariage. Ceux qui vous entouraient d'hommages aujourd'hui s'éloigneront de vous. « Voilà ce qui vous attend, princesse Milza, si Alexandra Ouloussov se déclare vivante. Mais il dépend de vous qu'elle demeure dans le tombeau. Pour cela, il vous suffira... » Elle s'arrêta une seconde. Myrtot attachait sur elle un regard fixe. « Il suffira que vous m'aidiez dans le grave embarras d'argent où je me trouve.
Pour des raisons inutiles à vous expliquer, je me suis séparée de mon second mari et je suis presque dans la misère. Vous êtes, vous, la femme du plus opulent magnat de Hongrie. Il vous sera facile de me donner la somme d'argent nécessaire, ou bien, si vous le préférez, quelques-uns des joyaux dont vous avez dû être comblés. Alors, je vous ferai le serment de me taire. » Myrto eut tout à coup un violent soubresaut. Jusque-là, les paroles de l'étrangère étaient arrivées à ses oreilles comme une sorte de bourdonnement. Dans l'épouvantable désarroi de son esprit, dans la torture de son cœur, elle ne parvenait pas à en saisir exactement le sens. Mais cette fois, elle avait compris. « Taisez-vous, c'est odieux !» s'écria-t-elle d'une voix étranglée en étendant la main. « Pour qui me prenez-vous ? Croyez-vous que ma conscience s'arrêterait une seconde à cette sacrilège tromperie ? Si vous dites vrai, c'est moi-même qui l'apprendrai à tous et il n'y aura plus de princesse Mixa, » fit-elle avec un brisement dans la voix. Une lueur de contrariété passa dans le regard d'Alexandra. « Allons donc, vous ne lâcherez pas ainsi une telle position pour de simples scrupules de conscience, » dit-elle en haussant les épaules. « Et que deviendrait le prince Mixa sans vous ? Pensez-vous qu'il supporterait ce nouveau malheur ?» Oh, quelle douleur atroce broyait soudain le cœur de Myrto. Et vous-même, qui devez lui être si attaché, vous qui êtes si jeune et dont l'existence se trouvera ainsi brisée au moment où le plus enivrant bonheur vous était promis ? Tous ces sacrifices, toutes ces souffrances, le simple silence vous les évitera. Le silence et un peu d'argent. » Myrto se dressa brusquement. Elle étendit les mains dans un élan de toute sa jeune âme loyale et pure. « Taisez-vous, retirez-vous, misérable tentatrice. Je ne veux pas vous écouter un instant de plus. Monseigneur Giza est encore là. Allez lui apprendre la vérité. » Et tout à l'heure, je partirai, je serai Myrto Eliani comme hier, et Dieu nous accordera la grâce de la résignation, » acheva-t-elle d'une voix étouffée. L'étrangère ne put retenir un geste de fureur. « Vous êtes folle, il faut que vous acceptiez, je le veux, entendez-vous » Elle avait saisi le poignet de la jeune femme et le serrait violemment, tandis que ses yeux bleu pâle l'enveloppaient d'un regard irrité. « Lâchez-moi ou j'appelle !» dit fermement Myrto. « La table des gardes forestiers n'est pas loin d'ici, ils m'entendront aussitôt. Et si le prince vous voit, je ne réponds de rien. » Les beaux traits de l'étrangère étaient convulsés par une sorte de rage. Elle laissa aller cependant le poignet meurtri de Myrto et dit avec une sourde fureur « Vous êtes une créature stupide et folle, mais je saurai arriver à mes fins d'une manière ou de l'autre. » « Vous entendrez encore parler de moi, princesse Mixa !» Elle ramena brusquement le capuchon sur sa tête et s'éloigna d'un pas rapide. Myrto demeura un instant immobile, pétrifiée dans son anéantissement affreux. Puis, passant d'un geste machinal la main sur son front, elle s'en alla au hasard vers le parc. Elle laissait traîner sur le sol sa longue traîne de moire que les rayons du soleil déclinant faisaient étinceler. Elle sentait ses idées vaciller dans son cerveau comprimé par l'angoisse épouvantable. Elle se vit tout à coup près du temple grec. Une douleur atroce la mordit au cœur. Ici avait eu lieu leur fiançailles, ici elle avait connu ce qu'elle était pour lui. Une grande faiblesse envahit tout à coup Myrto, ses jambes fléchirent sous elle et elle n'eut que le temps de se laisser tomber sur un des degrés du temple. Là, le front entre ses mains, elle s'abîma dans une douleur silencieuse, dans l'agonie de son âme, aux prises avec l'affreuse réalité. Elle ne songeait pas à elle, à sa vie brisée, comme l'avait dit cette femme. Non, c'était lui, lui seul qu'elle se représentait, l'âme déchirée, désespérée peut-être. Il était si nouveau converti encore. Oh, la pensée de sa douleur, de sa révolte! Elle se rappela tout à coup que, par deux fois, elle avait demandé de souffrir pour que Dieu accordât au prince Mixa la grâce du bonheur temporel et surtout éternel. « Oh mon Dieu, pour moi, ce que vous voudrez, mais lui, lui qui a déjà tant souffert !» Comme une ironie mordante, les sons d'un orchestre de tziganes arrivaient jusqu'à elle, rimant une xarda. C'était en son honneur que tout Voraclis était en fête pour ce mariage dont tous, ce soir, connaîtraient la nullité. De ces cérémonies touchantes et magnifiques, de cette allégresse, de ce bonheur, il ne restait rien. Et il y aurait de nouveau, à Voraclis, un homme au regard sombre qui s'en irait solitaire à travers son immense domaine, l'âme broyée de regrets douloureux et peut-être de haine contre l'autre.
« Mon Dieu, ayez pitié !» gémit Myrtot.
Elle se sentait défaillir sous l'étreinte de ce martyr moral, et elle songea avec terreur qu'elle allait le voir, qu'il faudrait lui révéler l'atroce vérité, assister à sa révolte, à son désespoir, lutter peut-être pour faire prévaloir les droits imprescriptibles de la loi divine.
« Oh non, je ne veux pas, pas maintenant !» murmura-t-elle en comprimant sa poitrine où le cœur battait à grands coups précipités. « Il faut que je parte, je lui écrirai. »
Elle ne songeait pas à toutes les impossibilités qui se dressaient devant elle. Un effroi irraisonné, une crainte déchirante de voir sa douleur l'emporter, la faisait se dresser debout, prête à fuir au hasard. Mais il était trop tard, un pas bien connu se faisait entendre. Le prince apparaissait, se hâtant, le visage radieux. « Enfin, me voilà, Myrtot. Mon excellent oncle m'a un peu retenu. »«
Mais qu'avez-vous ? »
Il prononçait ces mots d'un ton de terreur en s'élançant vers la jeune femme dont le visage était décomposé et les yeux presque hagards. Elle étendit les mains en balbutiant.
« Partez, Arpad, laissez-moi, je vous expliquerai, mais je ne suis pas votre femme. »
« Myrtot !» Elle comprit, à sa physionomie et au son de sa voix, qu'il la croyait folle.
« Oh non, j'ai toute ma raison » dit-elle d'un ton brisé. « Il faut nous séparer, Arpad. Dieu ne permet pas que je remplisse près de vous les devoirs que j'avais acceptés avec tant de bonheur. »«
Myrtot, que voulez-vous dire ? » s'écria-t-il avec effroi en lui saisissant la main. Elle murmura, d'une voix si faible qu'il entendit à peine,
« Alexandra vit, je l'ai vue. »«
Alexandra ?» Il la regardait avec stupeur et, de nouveau, elle vit que sa crainte de tout à l'heure reparaissait.
« Non, je ne suis pas folle, je vous assure, Arpad, je l'ai vue tout à l'heure dans le jardin. Elle m'a dit qu'elle avait échappé à la mort, qu'elle s'était séparée de son second mari. Elle a eu le cynisme de m'offrir le silence contre argent comptant. »
Le prince l'interrompit brusquement. Une jeune femme qui ressemblait à Alexandra.
Oui, oh, c'était elle, bien elle. J'avais vu son portrait, je l'ai reconnue aussitôt.
Le prince lâcha la main de Myrtot et, sortant de sa poche un petit sifflet d'or qui lui servait à appeler ses gardes, lorsqu'il avait une communication à leur faire au cours de ses promenades dans le parc, il en tira un son prolongé. Puis il se tourna vers Myrtot stupéfaite et lui prit les mains en posant son regard plein de tendresse sur le visage altéré de la jeune femme.
« Oh si, vous êtes ma femme devant Dieu et devant les hommes, ma bien-aimée. Vous avez été la dupe d'une misérable aventurière. »
Un cri s'échappa de la gorge contractée de Myrtot.
« Arpad, oh, serait-ce vrai ?»«
Oui, c'est la vérité absolue. Celle que vous avez vue est bien une Ouloussof, mais la sœur d'Alexandra, Fédora, une jeune sœur qui lui ressemble de frappante manière, bien que ceux qui ont connu l'aînée puissent, dès le premier abord, distinguer quelques différences. Pour vous, qui n'aviez vu qu'un portrait, je comprends que vous ayez été saisie. Cette Fédora, mariée et divorcée ensuite comme sa sœur, est devenue une sorte d'aventurière, toujours à la recherche d'expédients. Ayant lu quelque part l'annonce de notre mariage, elle aura eu l'idée de tenter quelque escroquerie. Mais soyez sans crainte, ma Myrtot, sa sœur est bien morte. J'ai pris tous mes renseignements, toutes mes précautions, afin qu'il ne puisse subsister le moindre doute. Elle a survécu une heure encore à ses affreuses brûlures et a rendu le dernier soupir entourée de la famille Burnett. Il n'y a aucun doute, aucun, je vous le répète, Myrtot. Une joie immense, surhumaine, envahissait la jeune femme. Elle murmura «
Arpad, mon mari !»
et s'affaissa à demi évanouie. Il la reçut entre ses bras, la fit asseoir près de lui sur les degrés. Déjà, elle reprenait ses sens, et ses nerfs se détendant, elle se mit à sangloter doucement, la tête sur l'épaule de son mari. Il la calmait avec de tendres paroles, et bientôt les larmes cessèrent. Myrto sentit qu'avec le bonheur, les forces lui revenaient un peu. Un homme, portant la tenue des gardes forestiers du prince, apparut tout à coup au bord de la clairière. Sur un signe de son maître, il s'avança jusqu'au péristyle. Dulby fait immédiatement une battue dans le parc et aux environs du château. Il s'agit de trouver et d'arrêter une femme qui a effrayé la princesse et a tenté de lui extorquer de l'argent. Elle est jeune, très grande, très blonde, de beaux traits, les yeux bleu pâle. Pourriez-vous indiquer à peu près comment elle était vêtue, Myrto ?
Elle avait un long manteau noir à capuchon, mais je ne saurais dire dans quelle direction elle est partie, j'étais si bouleversée.
Peu importe, on cherchera partout. Elle ne peut encore être bien loin. Tu as compris, Dulby ?
Oui, Votre Excellence.
Va et ne perds pas de temps.
Vous voulez la faire arrêter, Arpad ? Dit Myrto lorsque le garde se fut éloigné.
Certes, j'avais appris il y a quelque temps qu'on la recherchait comme coupable d'une récente escroquerie, et hier, il m'est parvenu un rapport sur sa présence aux environs. J'ai eu le tort de n'y pas accorder l'attention nécessaire. Quelle souffrance je vous aurais évité ainsi, ma Myrto !
Il contemplait avec douleur le cher visage où demeuraient encore les traces de l'épouvantable angoisse qui avait bouleversé le cœur de Myrto.
Oh, c'est fini maintenant, dit-elle en souriant pour le rassurer. C'est fini, mon cher Arpad, puisque je sais maintenant que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Mais un frisson rétrospectif la secouait encore.
Si vous vous sentiez assez forte, nous rentrerions, chérie. L'air fraîchit un peu et vous n'êtes pas suffisamment couverte.
Oh oui, je marcherai avec votre appui, Arpad.
Lentement, car elle était encore affaiblie après cette terrible secousse morale, ils revinrent vers le château. Dans les salons, dans les jardins, on dansait au son des orchestres de tziganes. Personne ne s'était douté du bref petit drame qui avait eu surtout pour théâtre le cœur de Myrto. Évitant la partie du jardin où tourbillonnaient les couples, le prince conduisit sa femme vers son appartement. Il la fit entrer dans son cabinet de travail, l'installa dans un fauteuil près de la fenêtre, sonna Miklos pour faire apporter du thé. Le calme revenait de plus en plus en Myrto, sous l'influence de cette affectueuse sollicitude, dans l'atmosphère tranquille de cette pièce immense, meublée avec une somptuosité artistique et sévère, et ornée à profusion de fleurs admirables. Au-dessus du bureau de son mari, elle voyait le dernier tableau, dû au pinceau de Christos Eliani, celui qu'il représentait avec sa femme et sa fille. D'accord avec Myrto, le prince l'avait fait placer dans cette pièce, où il se tiendrait souvent avec sa femme.
De cette façon, puisque je n'ai pas eu le bonheur de connaître vos chers parents, je les aurai souvent sous les yeux, ainsi que vous, ma petite Myrto, avait-il dit à sa fiancée. Comme ils auraient été heureux du bonheur de leur enfant. Ce matin, Myrto avait éprouvé une impression de tristesse en songeant à leur absence. Et maintenant encore, une larme brillait dans les yeux qui s'attachaient sur le tableau. Mais une main saisit la sienne, une voix chaude, la chère voix qu'elle avait cru tout à l'heure ne plus entendre, murmura à son oreille. « Ne pleurez pas, ma femme aimée, car aujourd'hui, ils sont heureux de notre bonheur, ils vous bénissent, ils nous bénissent, ma chère petite Myrto. » Elle leva vers lui son regard rayonnant, où se reflétait si bien toujours l'âme pure, vaillante et tendre de Myrto, et il murmura « J'aime vos yeux, Myrto. Vous rappelez-vous que notre petit Caroli disait ainsi ? Lui aussi avait été pris à la lumière de ses grands yeux. » Miklos entra, apportant le thé. Il annonça que le garde Dulby était prêt à rendre compte de sa mission. « Déjà, à la bonne heure, fais-le entrer, Miklos. » Le garde apparut, couvert de poussière, et s'avança de quelques pas au milieu de la pièce.
« Eh bien, c'est fait, Dulby !»«
Oui, Votre Excellence, elle est arrêtée, mais elle était armée et a tiré un coup de revolver sur Miax, qui est assez grièvement blessé, je le crains. »«
« Oh, pauvre garçon !» s'écria Myrtot. « Arpad, nous allons le voir ?»«
Pas vous, Myrtot, c'est assez d'émotion pour aujourd'hui. Restez bien tranquille ici, je reviens dans un moment, après avoir su ce que pense le docteur de cette blessure. »
Dans la grande pièce où flottait un parfum léger, elle demeura seule et, fermant les yeux, elle essaya de revoir avec calme les affres par lesquelles elle venait de passer. Dieu l'avait exaucée, elle avait souffert une brève mais douloureuse agonie, et lui, son mari, dont elle avait dit un jour « Son bonheur est mon bonheur », avait été épargné par la miséricorde divine. Un hymne de reconnaissance s'élevait de l'âme de Myrtot, où le calme était revenu, complet maintenant. Un peu penchée, les mains jointes, elle priait pour lui, pour le pauvre homme frappé en accomplissant son devoir, pour la malheureuse criminelle qu'il avait tant fait souffrir. Le prince Mirza entra en disant d'un ton joyeux « Allons, il n'y a rien de grave, rien absolument. Ce brave Miak sera sur pied dans quelques jours et il y gagnera une augmentation de traitement qui sera fort bien accueillie par sa nombreuse famille. » Il s'assit près de sa femme et la baisa au front en disant avec émotion « Chassez maintenant tous ces vilains nuages qui ont tenté d'assombrir le premier jour de notre union, ma Myrtot. Vous continuerez à être pour moi la chair, la radieuse fée aux fleurs, car c'est par l'influence de vos vertus que le repentir, la foi et la charité, ces fleurs célestes, se sont épanouies dans l'âme autrefois révoltée et endurcie, dans la pauvre âme malade du prince Mirza. »